Je vous présente maintenant, après avoir trop parlé, notre conférencier. Il s'agit du professeur Hans Belting. Et j'ai plaisir à saluer un de nos premiers conférenciers francophones, mais non de langue française maternelle, parce que nous avons eu jusqu'ici des conférenciers belges, par exemple, mais ils étaient de langue française maternelle. Le professeur Belting est né en 1935. Il vient d'Allemagne. Il a été professeur d'histoire de l'art à l'université de Heidelberg. Puis, à partir de 1980, il a été professeur d'histoire de l'art à l'université de Munich. Et il est, depuis 1992, professeur d'histoire de l'art et de théorie des médias dans une école de design, on pourrait dire, la Hochschule für Gestaltung, à Karlsruhe, qui est une école qui est tout particulièrement orientée sur les nouveaux médias, hein, et les nouvelles technologies. Il est membre de nombreuses académies. Il a aussi souvent enseigné aux États-Unis comme professeur invité. Ses publications sont nombreuses. J'en signalerai juste quelques-unes en français. On a vu paraître une traduction en 98 d'un très gros livre de lui, son ouvrage majeur, je pense, « Images et cultes, une histoire de l'art avant l'époque de l'art ». C'est paru aux éditions du CERF en 1998. Il avait publié dans les années 1980 un livre qui a été considéré comme assez scandaleux aussi bien en Allemagne qu'aux États-Unis et puis en France. Et en France, le livre a été traduit sous le titre « L'histoire de l'art est-elle finie ?» paru aux éditions Jacqueline Chambon en 89 et qui a été réédité en 1996. Il a publié récemment, l'an dernier, en Allemagne, un très gros ouvrage sur le concept de chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre invisible et les mythes modernes de l'art, qui est en cours de traduction pour la France et qui paraîtra vraisemblablement en 2001. Et il prépare actuellement une anthropologie de l'image. Donc je vous demande de l'accueillir très bien, en prenant tout particulièrement en compte le fait qu'il nous fait l'honneur de parler en français ce soir. Merci.
Bonsoir, mesdames, messieurs. J'espère que je peux vous donner quelque chose ce soir. Et j'espère que je ne vous dérange pas avec mon français. Le français est une langue prêtée parce que la traduction est faite dans la maison. C'est-à-dire la langue n'est pas mienne, mais les pensées sont, j'espère, les miennes. D'abord, trois remarques. Première remarque, j'adore l'art. Seconde remarque, j'aime l'histoire de l'art. Troisième remarque, je ne parle ni de l'art, ni de l'histoire de l'art, mais des problèmes actuels de ces deux. C'est-à-dire, je ne parle pas de M. Dupont, je parle des problèmes de M. Dupont. C'est une certaine différence, je crois. Alors, il est très important pour moi de vous convaincre que ces problèmes sont graves, mais la chose est belle. Et quatrièmement, je ne montre pas des diapositives, qui est affreux pour un historien de l'art. Alors, je n'ai pas des œuvres, j'ai quelques pensées. Et j'espère que votre tolérance serait suffisante. Alors, j'ai intitulé ça, pas l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'art au tournant. L'histoire de l'art, en tant que discipline, entra dans sa phase active de science humaine à peu près au moment où furent créés les musées. Elle même adopta d'emblée une orientation muséale dans ses recherches sur l'art, ce qui s'explique facilement par le fait que son sujet était constitué des œuvres anciennes qui étaient présentées dans les musées. C'est-à-dire, la discipline commence à un moment où ces sujets sont anciens. Pour pouvoir classer ces œuvres, il fallait établir les noms d'artistes et des données historique à Descartes. La simple étiquette au musée, qu'on a posée à un tableau, à une sculpture exposée dans un musée, exiger des informations, naturellement, sur le maître qui en est à l'auteur, ainsi que sur la place occupée dans sa production par une œuvre qu'on pouvait rencontrer dans le musée. C'est-à-dire pas la place de l'œuvre au musée, mais la place de l'œuvre dans l'histoire. Toutefois, de simples dates ne nous apprennent pas grand-chose. Lorsqu'on ne les voit pas, dans un développement personnel ou général, historique, dont elles tirent tout leur sens. De même, les biographies d'artistes ne prirent sens qu'à partir du moment où on fut en mesure de les intégrer à une histoire générale, naturellement une histoire aussi inventée. Par exemple, à l'histoire de l'école à laquelle appartenait tel ou tel artiste. Dans le cas des collections du Louvre, l'école française joua bien entendu un rôle capital. Mais qu'est-ce que c'est une école? Lorsqu'on pensait en termes de catégorie nationale, c'est-à-dire au XIXe siècle, les écoles françaises, italiennes, espagnoles, allemandes faisaient office pour l'art des concepts généraux. Cependant, le rayonnement ne coïncidait pas avec les frontières des nations modernes, sans quoi il n'aurait pu exister d'école vénitienne, parce que Venise n'était pas une nation, ou florentine, lesquelles nous indiquent justement qu'à cette époque, c'est-à-dire au commencement du XIXe siècle, l'Italie n'en était encore qu'à ses premiers pas de nation. Les premiers catalogues du Louvre s'efforcent de dépasser encore un peu plus l'histoire connue d'artistes et d'écoles pour représenter la marche des arts à travers le temps sous la forme d'un événement universel. C'est très amusant de lire ces catalogues parce que l'histoire de l'art dans ces catalogues commence avant le déluge et continue après le déluge. Et plus tard, on a abandonné ça. Le progrès régi par des lois, ou par la loi de l'histoire, le progrès, devint par là le moteur d'une histoire de l'art qui était pourtant parvenue dans l'Antiquité, comme pendant la Renaissance, à un achèvement classique qui tendait pourtant à remettre en question le progrès. Ainsi s'opposèrent d'emblée deux paradigmes dont la contradiction se révéla difficile à résoudre. D'une part, le classique qui est classique, et l'autre part, le progrès. Ce sont deux choses différentes. Et au Louvre, c'est très simple parce qu'au rez-de-chaussée, c'était l'art de l'Antiquité, et au premier étage, c'était l'art moderne, c'est-à-dire de la Renaissance. Très simple. En publiant en 1815 sa célèbre critique du musée, qui était encore à cette époque une jeune institution de musée, Quatremer de Quincy, un vrai représentant de l'ancien régime, manifesta son désaccord avec ce changement dans la compréhension de l'art. Il avait peur que le musée était terrible pour l'art. Ceux qui font du musée un lieu chronologique n'ont d'autre but, à en croire notre auteur, je cite, que de tuer l'art pour en faire l'histoire. C'est-à-dire, les représentants de l'ancien régime aimaient le goût personnel, et pas l'ordre historique. Longtemps régna dans l'histoire de l'art l'ordre du savoir, celui qu'on voulait avant tout acquérir pour les œuvres muséales ou de l'art exposé dans les églises, les châteaux et les jardins. C'est-à-dire de savoir, parce que ces œuvres n'avaient pas d'étiquette. On ne savait rien et on voulait savoir. Finalement, la création du musée du Louvre, après la Grande Révolution, était devenu nécessaire pour garantir au peuple, de façon nouvelle et à titre d'illustration d'une histoire de l'art universelle, la propriété du domaine artistique apatride constitué par les châteaux et les églises. C'est-à-dire, on avait une alternative ou détruire l'art ou faire un musée. Ainsi, les questions de continu ayant trait à la signification des thèmes dans les œuvres d'art passeraient-elles pour longtemps au second plan? C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on les voulait classer comme art et pas comme signification, parce que la signification était ecclésiastique ou aristocratique et maintenant la signification était artistique. Les œuvres ne devinrent populaires qu'au XXe siècle, les questions de continu ne devinrent populaires qu'au XXe siècle grâce à la direction des recherches initiée par l'émigré allemand Panofsky à Princeton sous le nom d'iconologie. Pourtant, jamais cette dernière ne fut en mesure de fournir une méthode générale pour l'analyse des images. Contrairement à ce que semblait indiquer son concept et son nom, je prétends que ce n'est pas de l'iconologie, il se nomme iconologie. Ne s'occupant que d'art et donc jamais d'images non artistiques, elle ne se demandait pas ce que signifiaient les œuvres d'art pour la culture et l'histoire de leur époque, mais tout au contraire, quelles conditions actuelles du contexte culturel avaient pu trouver accès aux œuvres qu'elle examinait. Ce faisant, l'histoire de l'art s'isola volontairement des autres sciences humaines et revendiqua l'autonomie de l'art pour elle seule, évitant ainsi d'associer ce dernier aux autres témoignages textuels et matériels de l'histoire. La description très simplifiée, qui vient d'être faite, permet d'expliquer le chemin emprunté par l'histoire de l'art au cours de ces deux siècles d'existence. Sa tradition révèle une sélection thématique rigoureuse dont les traces sont encore présentes aujourd'hui. J'aimerais évoquer le plus brièvement possible cette sélection d'un triple point de vue sous une forme très générale. On a d'abord l'art moderne, c'est-à-dire, je dois ajouter, je parle ici de l'art depuis du XIXe siècle, si je parle d'art moderne, pas de l'art de la Renaissance. On a d'abord l'art moderne, qui pendant très longtemps fut loin de représenter un objet de recherche privilégié. Cette situation ne se modifia qu'avec la Seconde Guerre mondiale, pour conduire directement depuis lors à une scission de la discipline, analogue à celle qu'on peut observer entre les musées et les tâches qui leur incombent, ou entre les musées et les non-musées, entre le Louvre et Paris. Il y a ici deux poids, deux mesures. Sans cesse résurgissent des controverses sur le caractère sérieux de l'art moderne et sur les doutes, et sur la question de savoir s'il faut réellement le faire entrer, l'art moderne, dans une histoire générale de l'art. De ce point de vue, on est resté fidèle, consciemment ou non, à ce qu'a été la tradition de la discipline depuis les commencements de cette dernière, au début du XIXe. L'histoire a vaincu la critique d'art vivant. Pour des raisons analogues, la tradition de l'historiographie de l'art eut pour conséquence inéluctable l'exclusion de l'art non occidental, hors des domaines thématiques de la discipline. Aujourd'hui encore, l'autocompréhension, on pourrait aussi bien dire la mécompréhension de la discipline histoire de l'art, souffre de ce qu'on croit écrire une histoire universelle de l'art, laquelle à y regarder de plus près ne contient cependant que l'art européen et depuis peu américain. Il est notoire que cette contradiction, c'est-à-dire universelle d'une part et sélection de la matière d'autre part, fait partie intégrante de l'autocompréhension conflictuelle de la modernité, qui, tout en se proclamant autonome vis-à-vis du reste du monde, s'est toujours arrogé le droit de parler au nom et pour le monde entier et de le représenter avec ses idées à elle. L'histoire de l'art n'eut aucune difficulté à laisser l'art de l'autre monde à l'ethnologie. C'est ce qui l'amena à la célèbre question controversée de savoir si l'on devait exposer des masques africains, pour ne mentionner que cet exemple, comme des œuvres d'art ou comme des simples documents ethnologiques. On sait que cette controverse se prolongea jusqu'aux plus récentes créations du musée à Paris. Et c'est en dépit du fait que les artistes d'avant-garde se soient efforcés depuis un siècle et l'émergence du mouvement appelé primitivisme d'élever le prétendu art primitif au rang d'art authentique, du seul art proprement dit. Alors je veux dire que aussi cette controverse sur le musée d'art primitif maintenant représente un très vieux problème qui est inséré dans la construction et dans l'histoire de l'art. Mais c'est encore d'un troisième point de vue que les effets de la tradition se sont fait sentir au cours des deux derniers siècles, sur le profil et les thèmes de l'histoire de l'art. Il est caractéristique que l'histoire de l'art ait fait ses premiers pas au moment où furent inventés les médiums techniques modernes de l'image, les médiums, les techniques propres à la modernité, comme la photographie et par la suite le film, médiums qu'elle exclut consciemment de prendre pour thème, c'est-à-dire au moment où on a inventé la photographie, l'histoire de l'art fait les recherches sur la peinture. Elle adopta d'emblée une attitude rétrograde et pour ainsi dire muséale, une attitude muséale dans le conflit qu'il opposait à la production contemporaine d'images émanant des mass-médias. L'art fut et resta défini par les anciens genres et espèces, la peinture, la sculpture et le dessin, qui constituaient, quant à elles, le domaine collectif du Louvre. C'est pourquoi on en vint à un débat âpre et pour le moins tardif sur l'intégration des autres médiums, jusqu'à maintenant. La photographie ne suscita l'attention qu'après être vue reconnaître le statut d'art authentique et avoir trouvé accès au musée, c'est-à-dire très récemment, depuis les années 60. Les artistes durent rendre ces médiums acceptables pour que les historiens d'art daignent les remarquer. Cette situation se répète dans une plus grande mesure encore avec les médiums d'aujourd'hui. La vidéo est l'art fondé sur l'informatique, c'est-à-dire l'art des médiums électroniques, sont considérés avec méfiance, comme s'ils trahissaient l'art et menaçaient du même coup l'identité propre de la discipline. Paradoxalement, cela va de pair avec les tentatives entreprises actuellement par les technologies pour se voir accorder l'aura dont bénéficie l'art, afin de parvenir à une plus grande liberté sur le plan social et économique. C'est-à-dire les artistes qui font l'usage des nouvelles technologies présentent l'aspiration que ça pourrait être l'art, tandis que l'autre côté encore rejette ce domaine du territorial, en dehors du territorial de l'art. Toutefois, ces trois points que j'ai décrits sont des points importants pour comprendre la situation actuelle du fond ou du miroir de l'histoire de cette discipline, parce que tous les problèmes sont vieux. Toutefois, on peut aussi décrire la situation autrement, que je viens de le faire. On peut la comprendre comme une possibilité de maintenir le canon d'un concept d'art spécifiquement européen, ainsi que de lutter contre toutes les tendances qui poussent à sa dilution, à sa dissolution, c'est-à-dire le principe de défense. Pareille entreprise est justifiée à partir du moment où elle adopte une attitude réflexive vis-à-vis de sa propre position et où elle a également connaissance de ses propres mobiles. Or, cette démarche n'est-elle même possible que lorsqu'on se trouve engagé dans un dialogue avec d'autres positions, au lieu de se contenter de détourner les yeux et de tomber dans un pessimisme culturel qui est appliqué à l'art en second lieu et est surtout représenté par ceux qui ne songent pas d'abord à ce dernier. C'est-à-dire, on parle sur l'art, mais vraiment, on ne parle pas de l'art. On fait l'usage de l'art pour parler des autres choses, pour parler sur la culture ou sur la fin de l'histoire ou quelque chose. En revanche, l'histoire de l'art se retrouve dans cette situation prisonnière d'une tradition qui prit naissance dans un autre temps et était alors muée par d'autres intérêts. Il faut toujours réanimer une tradition, je crois. Réanimer si on ne veut pas qu'elle dégénère en pure et simple répétition. C'est le grand problème de la tradition et de garder la vie de cette tradition. Du reste, ce qui est en jeu dans la polémique sur l'art contemporain est en réalité un rituel qui trahit un regard extérieur sur l'art. On veut faire de l'art un exemple, sans pour autant vouloir comprendre qu'un maître artiste s'exprime avec plus d'originalité et de liberté sur les problèmes de leur temps que les faiseurs d'opinion officiels. Qu'il soit permis de rappeler ici que Joseph Kossuth, l'artiste hongrois, avec son slogan de « L'art après la philosophie »,« Art after philosophy », du 68, anticipa en un sens exactement inverse le thème du philosophe américain Arthur Danto lorsque ce dernier prit pour objet de sa réflexion la question de la philosophie après l'art, philosophie after art, c'est-à-dire de la philosophie qui prend et occupe aujourd'hui le territoire de l'art, ou de dire autrement, et l'art n'est plus besoin dans ce sens original parce que c'est la philosophie. Et là, les artistes, naturellement, disent le contraire. Pour ce qui est de la France, il convient de prendre en compte une dichotomie particulière au sein de la littérature sur l'art, qui n'existe pas dans la même mesure, par exemple, en Allemagne. Longtemps, les recherches françaises sur l'art restèrent dans une certaine mesure sur la défensive vis-à-vis des écrivains ou philosophes qui sont représentés dans la littérature sur l'art par des grands noms. Du fait de la fondation précoce des musées et de la signification qui revêtait le salon annuel, la critique d'art constitua d'emblée dans votre pays une affaire publique dans laquelle les écrivains furent eux aussi amenés à prendre la parole. Il suffit de mentionner des noms tels Balzac, tels que Balzac, Gautier et Baudelaire, ou encore Paul Valéry, Sartre, Foucault et Lyotard. L'herméneutique de l'art se trouva donc dans les mains d'une littérature libre des règles de discipline, et le succès de laquelle était constitué par le langage des poètes et des penseurs. Ainsi est-il compréhensible que les recherches académiques en France, menées sur l'art, étaient développées des travers archéologiques et qu'elles se soient repliées sur les problèmes purement internes, en abandonnant aux seuls écrivains les questions esthétiques ou herméneutiques. Ce faisant, elles entreprirent de défendre le savoir des experts contre la libre interprétation des autres. Répétition de la vieille tradition des artistes, des amateurs et des profanes, les trois catégories qu'on rencontre en XVIIIe siècle, le siècle de Versailles. En Allemagne, au contraire, l'histoire de l'art assuma d'emblée le rôle public d'instance de l'herméneutique, c'est-à-dire en Allemagne, manque des écrivains et des poètes sur l'art. Au contraire, il y a une grande tradition d'histoire de l'art académique. J'avoue me trouver, face au thème dont je traite ici, dans une situation un peu délicate, puisque j'ai publié, vous avez écouté ça, à deux reprises, un livre ayant pour titre « La fin de l'histoire de l'art ». Il est vrai qu'il s'agit de deux ouvrages différents. J'aime les mêmes titres et les livres différents. Derrière. Le premier fait suivre le titre d'un point d'interrogation, c'est-à-dire « La fin de l'histoire de l'art », point d'interrogation. Et revient sur une conférence inaugurale tenue à l'Université de Munich. Vous pouvez voir que c'était assez drôle de commencer comme professeur de l'histoire de l'art à Munich avec ce titre. À mon grand regret, cette version est la seule à être disponible en français. Je n'aime pas cette version. Le second livre a pour sous-titre « Une révision 10 ans après ». Il fut conçu après que je sois passé de l'université à une école des médias, où j'enseigne depuis lors l'histoire de l'art dans un environnement dominé par les nouveaux médias. Cet établissement devant du reste son nom au Bauhaus et ne s'appelant donc École de Gestaltung. Mes deux ouvrages se distinguent en ce que le premier privilégie les questions de méthode. J'étais plus jeune et plus sérieux, pour traiter avant tout du rôle joué par l'art moderne dans l'historiographie générale de l'art, etc. Le second, au contraire, s'intéresse aux changements dans le monde, ayant une influence sur l'histoire de l'art externe, qu'ils y soient ou non acceptés ou soumis à réflexion. C'est-à-dire, je voulais dire... Le monde ne dépend pas de l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'art dépend du monde. Je me contenterai de mentionner ici la nouvelle situation en Europe entre Est et Ouest, puis la distance de plus en plus croissante entre Europe et les États-Unis, intellectuels, je crois, et enfin la mondialisation, cette dernière s'exprimant sous la forme des nombreuses biennales de l'art qui ne cessent d'avoir lieu aux quatre coins du globe. C'est très nouveau, très récent. Toutefois, dans aucun de mes deux livres, le discours sur la fin de l'histoire de l'art ne signifie ce que pourrait supposer, à savoir la fin de la mission d'une discipline académique. Ce dont il est question, c'est bien plutôt d'un canon qui demande à être révisé, c'est-à-dire du canon auquel on a donné le nom d'histoire de l'art. Je distingue, comme vous voyez, la matière du récit. Le canon est une question d'identité culturelle. Il instaure un consensus quant à l'histoire de ce que nous appelons art, dans la culture occidentale, pour en rester à mon exemple. Cependant, le canon de ce que l'histoire de l'art signifie comme domaine de savoir n'a en vérité cessé de se modifier au cours des deux derniers siècles, ce dont nous prenons peu de notice, ou dont nous ne gardons la mémoire. La cause en fut non seulement les nouveaux matériaux qu'ils accumulent nécessairement avec le progrès temporel de l'art, mais aussi une ouverture temporelle comme spatiale à d'autres époques. Ainsi, lors de l'inauguration du Louvre, seuls étaient exposés les beaux temps de l'art, c'est-à-dire l'art de l'Antiquité et de la Renaissance. Renaissance qui, en France, ne menait pas au baroque nécessairement, mais au classicisme du grand siècle. En revanche, les peintres d'avant Raphaël se trouvaient encore exclus à cette époque, en tant que primitifs. Progressivement, le canon intégra aussi le Moyen-Âge, puis, petit à petit, l'art moderne, même si aujourd'hui encore ne cesse d'éclater des controverses sur ce que les uns considèrent comme canon et les autres comme une simple mode éphémère dans l'art depuis le XIXe siècle. Il m'est arrivé d'introduire, au lieu du canon, la métaphore du cadre. Selon cette conception, l'histoire de l'art, comme récit officiel, est un cadre. Tout ce qui y entre, étant de l'art, et tout ce qui sort de ses limites devant être exclu de là. Il est vrai que sur ce point, nous sommes depuis lors devenus plus libéraux, en même temps que plus contradictoires. Nous reconnaissons le statut d'art à beaucoup de choses dans le monde, y compris aux cultures primitives, sans pour autant les admettre dans le grand récit qui nous permet ordinairement de décrire l'histoire de l'art. Aussi, nous réservons-nous le droit secret de n'identifier comme art que ceux qui peuvent s'inscrire dans une écriture de l'histoire de l'art qui obéissent à un modèle éprouvé. L'existence de ce cadre invisible au sein duquel nous représentons l'art historique se trouve indirectement confirmée par le fait que de nombreuses minorités aujourd'hui ne s'y retrouvent pas et déclarent du même coup, sur un ton polémique, qu'il s'agit là d'une pure fiction créée par la culture dominante, c'est-à-dire pas un cadre, mais un cadre fictif. Je ne prendrai ici que l'exemple de l'art des femmes et du regard féminin, thème qui a retenu une certaine attention dans les gender studies, surtout aux États-Unis. Ainsi, le cadre de ceux qui appartiennent à l'histoire de l'art, de l'intérieur exclut les minorités et de l'extérieur exclut l'art des autres cultures. N'advient donc à la science de l'art que ceux qui se révèlent être dans tous les domaines de la science et de la culture, une révision du canon. Cependant, la spécialisation dans la discipline nous empêche de percevoir ce changement. L'atomisation des données savantes a pour conséquence que chacun se sent maître des événements dans son propre domaine de spécialisation. Il ne s'intéresse pas des grands problèmes. Or, par là, on ne représente plus l'histoire de l'art, mais uniquement ses propres intérêts et la défense de son autorité acceptée d'expert. L'ouverture de l'Europe vers l'Est a compliqué la situation de l'histoire de l'art. Dans les pays d'Europe de l'Est ou en Géorgie, où je me suis rendu récemment avec un groupe de jeunes scientifiques allemands, on veut désormais aussi être représenté dans le cadre qui m'a permis de décrire la tradition de l'histoire de l'art. Cela prend la forme d'une revendication pour l'art médiéval, d'une tradition commune, d'une koiné ancienne, prémoderne, ou bien, pour l'époque moderne, de la participation à l'histoire de l'art officiel, en vertu de quelques artistes locaux d'avant-garde. Après que manque dans le monde orthodoxe la Renaissance, qui à l'époque du baroque se propagea dans les pays catholiques et sur leur voie de communication, on ne voulait pas non plus se retrouver exclu de la modernité en Est, en tant qu'histoire constructrice d'identité. Cependant, on se lance dans des constructions historiques hasardeuses lorsqu'on applique un mode d'explication typiquement occidental de la culture et de l'art à sa propre situation, sans pour autant inaugurer une histoire de l'art alternative, ayant d'autres priorités temporelles et locales. C'est-à-dire paradoxicalement, ce canon, ce cadre de l'histoire de l'art occidental, qui est devenu douteux pour nous-mêmes, pour les autres, est encore un grand modèle pour s'intégrer à une histoire commune, culturelle. Longtemps, les artistes s'occupèrent à leur tour de faire l'histoire de l'art et d'affermir un canon dans lequel ils voulaient être représentés. Tout en voulant opérer une rupture avec la tradition, l'avant-garde tenait beaucoup à acheminer l'histoire de l'art dans le futur. Ainsi, il se voulait placer soi-même au point terminal de l'histoire de l'art, et par là même d'insinuer qu'on menait enfin à son but un long développement. Dès lors que les artistes se mirent à écrire sur eux-mêmes, la récapitulation de toute l'histoire de l'art précédente tenait d'un rituel de fondation et de justification. Il est vrai qu'il existait aussi, en un sens opposé, la tendance à se libérer de la contrainte de la tradition, à quitter la voie à sens unique qui était l'histoire de l'art, et donc à sortir de ce dernier. Vous savez, vous avez deux tendances. Une tendance d'entrer à tout prix dans ce cadre officiel, et l'autre tendance à sortir à tout prix ce même cadre. Cette dernière tendance commença avec la fuite dans d'autres cultures artistiques, le Japon dans le cas de Van Gogh et l'Océanie dans le cas de Gauguin. Le primitivisme fut la tentation d'abandonner l'histoire de l'art aux traditionalistes et de se réfugier dans d'autres cultures qui n'avaient connu absolument aucune histoire, selon Hegel et autres. Il y a près de 20 ans, eut lieu au Centre Pompidou la performance amusante qui m'inspira pour mon livre, le titre « La fin de l'histoire de l'art ». Lors de cette performance, l'artiste Hervé Fischer proclama, au moyen d'une sonnerie de réveil, que l'histoire de l'art était, dans ce moment, parvenue à son terme. Ce qu'il décrivit dans son livre « L'histoire de l'art est terminée ». Pardon, j'ai perdu un moment, mais je reviens. Si Fischer pouvait encore revendiquer à cette époque la liberté vis-à-vis de la double contrainte, de la répétition comme de l'innovation, on doit dire qu'aujourd'hui, un tel plaidoyer ne serait plus en place. Il est bien plutôt devenu extrêmement difficile de discerner au sein de la nouvelle production artistique un modèle contraignant. Ce qu'on voyait autrefois comme une liberté vis-à-vis de l'histoire de l'art doit de nos jours plutôt être considéré comme une perte de cette histoire dans l'art contemporain. Perte dans la mesure où les artistes ne se soucient plus de légitimer leur mode d'action selon des genres éprouvés et avec un regard de contrôle sur une tradition d'autorité absolue. Divers facteurs y ont contribué que je vais maintenant énumérer sous une forme générale. Dans la longue querelle entre high culture and low culture, la seconde semble avoir remporté une victoire définitive, ce qui signifie que le concept d'art ne se laisse plus déduire d'une culture élitiste, mais qu'il a tout au contraire adopter les formes comme les contenus des mass-médias. À cela se rattache également, en second lieu, le triomphe des nouvelles technologies, ou même des médiums visuels plus traditionnels de la modernité, dans lesquels l'idée d'un auteur doué d'une écriture unique n'a plus grand sens. Ainsi convient-il d'expliquer que depuis les années 70, les vidéastes se mettent eux-mêmes en image, dans le but de démontrer, pour ainsi dire corporellement, avec son corps, avec leur corps, qu'ils sont bien les auteurs de leurs œuvres et qu'ils ont une vision originale. Déjà, Déjà, la photographie se laissa difficilement insérer dans le schéma d'une évolution d'un artiste. Enfin, l'ouverture des frontières entre l'art occidental et celui des autres cultures conduit à une nouvelle situation dans la pratique comme dans la théorie du travail en matière de sciences de l'art. Ces effets se font d'abord sentir sur la scène contemporaine, où la manière dont se définissait traditionnellement l'Occident ne fonctionne plus. Mais elle a également des répercussions sur les thèmes historiques. Tout cela n'est pas non plus sans incidence sur le concept même de modernité. L'Occident fut tellement attaché au modèle du high modernisme, modernité classique, notamment dans les arts plastiques, qu'il voulut s'en débarquer dans ce qu'il est convenu d'appeler la postmodernité, pour justifier une orientation nouvelle, mais qui, selon moi, reste dans le sein de la modernité. Je préfère le terme surmodernité de l'anthropologue Marc Auger. Aux États-Unis, la rupture avec le modernisme s'accomplit de façon bien plus dramatique, parce que ce dernier y avait duré beaucoup moins longtemps. Mais aujourd'hui, la modernité se trouve menacée par le développement culturel mondial ainsi que par les interférences qui en résultent entre l'ancien centre et la périphérie, dans la mesure où les cultures n'ayant jusqu'ici pas eu l'occasion de prendre part à l'histoire de la modernité tendent à subvertir la définition. La crise de la modernité se traduit également par une crise de l'histoire de l'art, car celle-ci avait permis, d'une part au moyen de son formalisme, et d'autre part au moyen de ses idées quant à la représentation, une présentation privilégiée de la modernité par l'art. C'est le problème. Il est vrai que la dynamique qu'on vantait tant dans l'art occidental ne cessait de saper ses propres prémices en diffusant les idées d'originalité, d'innovation et d'autonomie pour les désavouer à nouveau aussitôt après. Enfin, la culture des masses effaça les frontières qui séparaient la haute culture et ses privilèges de la culture populaire. Mais du même coup fut réduite à néant la prétention qu'avait l'Occident d'être supérieur à la pratique artistique populaire ou pseudo-moderne des autres. Pour peu qu'on ne le défende pas aveuglement contre le reste du monde, le modèle historique qui permit à l'art occidental de se mettre en valeur avec tant de succès nous conduit à présent à de nouveaux problèmes. Longtemps, nous n'avons pas voulu tenir compte du fait qu'il existe des généalogies ou des traditions locales que le modèle historique de l'Occident ne peut et ne devait pas représenter. Il suffit de songer à de hautes cultures telles que la Chine ou le Japon qui développèrent de tout autre modèle spatio-temporel pour leur production artistique. C'est-à-dire, l'histoire de l'art ne marche pas pour la Chine et ne marche pas pour le Japon. Où en sommes-nous exactement aujourd'hui ? Si nous envisageons la pratique actuelle et le futur d'une histoire de l'art. Il est parfois délicat d'engager un débat sur cette question dès lors que la majorité de mes collègues n'y est guère disposée. On ne se satisfait certes pas de la perte d'autorité des anciennes méthodes, mais on n'est pas pour autant désireux de reconsidérer la situation. Nombreux sont ceux qui redoutent de perdre un terrain sur lequel ils se sentaient auparavant protégés par la tradition et par la profession. J'avoue me sentir moi-même divisé dans le droit secret. Pardon, je me perdais encore une fois. Je me suis partagé par le désir de rester fidèle aux traditions dans lesquelles j'ai été éduqué, et en même temps de leur donner plus de vie et de souplesse pour le futur. L'histoire de l'art, au cours des 200 dernières années, a connu de multiples transformations capitales et elle en connaîtra d'autres encore à l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est le paradigme qui, lui, est le plus propre qui se trouve mis en question. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'expliquer d'une nouvelle manière les données historiques, de revoir les tâches internes de la discipline, tout ça, mais bien plutôt de savoir si le récit officiel est protégé, que nous appelons histoire de l'art, peut encore prétendre au monopole. Il s'agit également de savoir si nous pouvons exporter le concept d'histoire de l'art tel que nous le comprenons dans le reste du monde ou si nous ne devons pas ouvrir une discussion avec les cultures non occidentales. De ce point de vue, on peut observer une différence qui existe aujourd'hui entre la pratique et la théorie, ou la réflexion méthodique. La pratique connaît des changements considérables qui livrent les prémices scientifiques ayant eu cours jusqu'ici à une lente érosion. Toutefois, ces changements n'ont pas encore fait l'objet d'une réflexion méthodique. On s'efforce plutôt d'adopter une attitude extrêmement tolérante, sous les auspices de laquelle chacun peut demander la parole sans retrouver un nouveau niveau de réflexion et sans trouver un risque. Il est du plus haut intérêt de parcourir le programme annonçant le 30e congrès international d'histoire de l'art en septembre 2000 à Londres, c'est-à-dire à ce moment où je ne savais pas comment continuer ma conférence. La Poste apportait le programme de ce congrès. Alors j'étais, ah, parfait, c'est mon sujet. À cette occasion, on entend, selon les termes du programme, je cite, « offrir une tribune à toutes les pratiques imaginables en histoire de l'art », très dangereux. Et on propose ainsi, je cite, « des articles et des tables rondes avec des intervenants venant des quatre coins du globe géographique et intellectuel ». Parfait. Dans ce cadre, on pourra assister à des débats sur la théorie postcoloniale et la transculturalité, ainsi que sur les autres modernités et les paradigmes non euro-américains, comme si c'était déjà esquissé sur toutes ces questions un consensus. En même temps, le programme propose le thème des outils d'analyse en histoire de l'art, ayant fait leur preuve, par exemple, le Classical Revival. Tout cela revient donc à que, dans la même section du congrès, seront présentées des communications sur le rococo des frères Goncourt, d'une part, et immédiatement après, sur le revival dans la culture maya. Très intéressant. L'Angleterre a un riche passé colonial et du même coup une grande diversité de sciences de la culture, en même temps qu'une tradition extrêmement courte en matière d'histoire de l'art, du point de vue universitaire. Voilà pourquoi le programme reste si extraordinairement multiforme. Pourtant, on peut se demander ce qu'auront à se dire les participants d'une même section du congrès futur, même s'ils s'écouteront les uns les autres, je ne suis pas sûr. Ce sera le cas. Mais je me trouve dans une situation magnifique parce que je parle sur un congrès qui n'a pas tenu lieu. Il est probable que la simple lecture des thèmes figurant sur le programme soit plus prometteuse et stimule davantage l'imagination que la participation au congrès même. Il est bien plus promettant d'imaginer la multiplicité et la complexité des thèmes en avant que d'en faire l'expérience dans la routine d'un congrès qui ne laisse généralement guère de place au véritable dialogue. La pratique se situe à un autre niveau que la conscience méthodique, qui reste pour sa part liée au privilège de l'identité culturelle. Le congrès de Londres est placé sous le mot d'ordre extrêmement large du temps, le temps. Qu'est-ce que c'est? Or, c'est précisément sur ce thème du temps que viennent se concentrer les nouvelles questions posées à l'art. car il existe dans ce domaine de vieilles traditions de construction de l'histoire. Qu'est-ce que c'est donc que le temps de l'histoire? Et le temps de quelle histoire? La première section du Congrès de Londres aura pour thème la géohistoire de l'art. Par là, chacun se représentera quelque chose de différent. Toutefois, c'est bien la constellation de l'espace et du temps qui se trouve ici proposée au débat. Vous voyez encore une fois le cadre et la période. Les anciens modèles ne sont plus en mesure de la représenter. Quel type d'histoire a-t-il trouvé accueil dans quels espaces? Les manuels d'histoire de l'art nous ont jusqu'ici suggéré que l'histoire de l'art a eu l'Europe pour terre d'élection et qu'elle est par conséquent une spécificité de l'art occidental qui est possible. Les choses n'en resteront pas là. Mais du même coup, il ne reviendra pas non plus aux Européens d'écrire l'histoire de l'art mondial. Ce qu'on entend de nous, c'est bien plutôt que nous donnions à l'histoire de l'art européen une nouvelle présentation et une nouvelle interprétation qui soit en mesure de susciter le dialogue avec les autres, au lieu de se donner comme un modèle exclusif qui demande la seule interprétation. Lorsqu'on entreprend de discuter de ces thèmes, on encourt immédiatement le reproche d'eurocentrisme que nous allons jusqu'à nous faire à nous-mêmes. Cependant, on oublie par là que même l'Europe ne dispose en aucun cas d'un modèle unitaire et contraignant pour raconter l'histoire de l'art. C'est-à-dire, je ne veux pas donner ici les exemples, mais les exemples sont très clairs. La soi-disant, l'histoire de l'art a une unité fictive. C'est-à-dire, l'histoire de l'art a changé pendant les deux siècles profondément et seulement pour un regard rétrospectif. Il semble être monolithique, très unitaire. Mais pour peu qu'on y réfléchisse de plus près, le problème d'une histoire de l'art actuelle ne fait que révéler sa véritable dimension. Croire que seule l'idée d'histoire se serait modifiée, tandis que l'idée d'art serait restée la même, n'est pas juste. L'idée d'art est bien plutôt intimement liée au processus historique qui s'est déroulé dans la modernité. Et elle est donc elle-même un produit de l'histoire. C'est ce que j'ai appliqué à l'idée d'œuvre d'art dans mon livre « Le chef-d'œuvre invisible ». Le terme d'art, ars, art, est ancien, mais il a toujours changé le sens selon l'usage qu'on en faisait. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle qu'il a pu être question d'un art autonome. Ce type d'art prit tout son sens dans l'avant-garde, mais dès le XXe siècle, ce dernier fut à nouveau remis en question. Depuis ces décennies, il est sans cesse question de la fin de l'art. Ainsi, le simple titre d'un livre d'Arto Danto contient-il déjà une double négation, après la fin de l'art, c'est-à-dire deux négations. En bonne logique, on pourrait poser à ce titre la question suivante. Comment continuer après la fin de l'art? Quoi qu'il en soit, je n'entends nullement affirmer ici que l'art est parvenu à son terme. Pareille affirmation ne serait pas originale et n'aurait rien à voir non plus avec le thème qui m'occupe. Dans un essai récent, je suis allé jusqu'à comparer la poursuite de la production artistique au comportement absurde de Sisyphe, qui chez Camus n'en était pas moins heureux. C'est-à-dire, de refaire l'art, c'est le travail de Sisyphe, le travail absurde mais nécessaire. Pourtant, avec le double concept d'art et d'histoire, l'histoire de l'art se trouve d'emblée livrée à une double incertitude qui l'exclut d'une vérité qu'il exclut d'une vérité pour tous les temps. Telle est l'hypothèque avec laquelle elle doit vivre. On ne cessera pas toujours de classer les œuvres dans lesquelles l'art s'est incarné et traduit. Néanmoins, cela ne saurait être la seule tâche d'un discours vraiment méthodique. On peut aussi tout à fait imaginer que l'histoire de l'art ne s'intéresse pas seulement aux œuvres d'art reconnues, mais qu'elle prenne également part au discours général sur les images dans lesquelles sont engagées nombre de disciplines actuelles. Je crois que notre problème aujourd'hui n'est pas là. Notre problème, ce sont les images, l'inondation des images, la vérité des images, la non-vérité des images. Ce sont les grands problèmes aujourd'hui pour notre culture. Les images ne sont pas à confondre avec les œuvres d'art, bien qu'elles jouent un si grand rôle dans l'art. Et aujourd'hui, elles attirent de plus en plus nos regards dans des domaines extérieurs à l'art. Elles prennent naissance en l'homme lui-même et croisent son regard selon de multiples formes, techniques et médiums. La représentation interne dans ce qui est les images de représentation, de souvenirs, mise en forme par ce lieu des images qui est l'homme, c'est-à-dire j'ai intitulé un essai le site de l'image, der Ort der Bilder, c'est nous. Cet homme est distinct de la représentation externe dont s'acquittent les images qui présentent l'imaginaire collectif d'un temps donné. Il me plaît de voir dans la question des images un élargissement des tâches auxquelles se limite de nos jours l'histoire de l'art. On ne saurait guère douter que cette question, vu le flot d'images auxquelles nous nous trouvons aujourd'hui confrontés, joue un rôle plus important et plus général que le discours stéréotypé de l'art et la question de savoir si l'art est encore possible aujourd'hui ou non. Merci.
Je ne sais pas si ça marque. Oui, ça
c'est une question. Alors, une question ici. Une question ici.
Bonsoir. Le culte de l'image et des sons, la peinture, la musique, la poésie, l'écriture, en un mot, les œuvres d'art et tout ce qui s'y rattache, fascine et exerce une influence considérable sur le développement spirituel de l'homme. Cependant, l'art ne semble pas neutre. Des dictateurs s'en sont servis. Dans certains pays du tiers-monde, il est mis au service de la révolution. Et même dans les pays démocratiques, les artistes ne sont pas philosophiquement ou intellectuellement réellement indépendants. Leur autonomie par rapport à l'idéologie dominante semble relative. Ceci a conduit certains à dire que l'art pour l'art n'existe pas et par conséquent, celui-ci est toujours au service d'une cause, même si celle-ci n'est pas noble. Que leur répondez-vous, monsieur le professeur ? Merci.
Merci beaucoup. Je ne partage votre opinion, mais je comprends votre opinion. Alors, c'est une opinion. On pourrait présenter autre opinion, mais évidemment, la question est très complexe. Alors, je comprends tout à fait ce que vous dites.
Ici. Il fonctionne, oui. Ma question se situe dans le cadre de l'histoire de l'art traditionnel, celle que vous avez décrite comme discipline académique et où vous avez dit que les experts jouent un rôle grandissant, c'est-à-dire qu'il y a une ambition à se fonder comme discipline scientifique. Et Alors, je me réfère à une spectaculaire faillite des experts dans l'affaire Van Meegeren, ce faussaire qui avait fait des faux Vermeer et qui a trompé les experts pendant un nombre respectable d'années, et des experts parmi les plus internationalement reconnus, alors qu'il procédait par des techniques tout à fait rudimentaires. Par exemple, il passait ses tableaux au four pour avoir des craquelures, et ça marchait. Et c'était... Alors, je voudrais savoir, est-ce que les techniques d'expertise ont assez évolué pour qu'une telle affaire soit impensable aujourd'hui? Qu'en est-il de cette ambition de l'histoire de l'art de se fonder comme discipline scientifique?
Ah oui, merci beaucoup. Je crois que même aujourd'hui, ça peut être possible. Je crois que le cas de Van Meegeren est la preuve de l'expertise de l'histoire de l'art, parce que Van Meegeren connaissait très bien l'histoire de l'art et il savait très bien de tromper les experts. On peut tromper les experts même dans les autres disciplines. C'est inclus. L'illusion de savoir tout est, je crois, une erreur. Non, je crois que c'est parfaitement la preuve que le... Qu'est-ce que c'est le fälscher, forger, le forger?
La falsification.
Yeah. Je crois que la falsification était possible parce que l'homme qui l'a fait connaissait très bien aussi les clichés, les aspirations, les obsessions des experts. Et il a trompé les experts.
Monsieur, là-haut. Vous avez un micro?
Oui, oui. Il a un micro. Oui.
Allez-y, allez-y.
Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas que l'art, comme la morale, quelquefois a des prétentions à l'universel, comme tout ce qui touche les motifs chez l'homme, alors que la science, ce n'est pas le cas? Est-ce que, d'une façon générale, et sans entrer dans les détails, est-ce que les différentes époques ont tendance à juger des pièces qui sont artistiques, mais elles sont pas, c'est pas universel. C'est-à-dire la reconnaissance de l'œuvre d'art n'est pas universelle, n'est pas universelle ni dans l'espace ni dans le temps.
Ah oui, très bien. J'aime le paradoxe. Pourquoi je suis happy comme historien de l'art, parce que je dois toujours étudier le paradoxe. Le paradoxe, en ce cas, consiste dans ce fait que l'art est terme universel, conception universelle, et alors pourquoi on a inventé ces conceptions seulement au XIXe siècle? Alors, c'est une contradiction ouverte. Je veux répondre avec cette situation paradoxe, qui a une grande vérité, comme tous les paradoxes.
Je vais être très bref. Je veux savoir...
Parlez dans le micro.
Je veux savoir, est-ce que l'historien de l'art n'est pas manipulé par le marché? Pour le fait...
Comment?
L'historien de l'art n'est pas manipulé par le marché. Le marché de l'art.
Naturellement.
Avant...
Naturellement. Comme nous tous. Tout le monde est manipulé par le marché.
Avant qu'elle arrive chez vous,
bien sûr.
Il faut qu'elle soit d'abord, qu'elle ait circulé dans le marché. Hein? Donc finalement, vous ne connaissez pas mal d'œuvres d'art qui existent et auraient peut-être leur place dans vos études.
Oui, oui. Je suis très heureux d'étudier l'art historique, par exemple, parce que je m'éloigne du marché. Quand j'étudie l'art contemporain, je ne peux pas éviter le marché. Et c'est pour moi une expérience mauvaise. Mais pourtant, mes collègues, le marché est le grand sponsor. Oui, parce que les historiens de l'art sont payés pour écrire des centaines d'articles pour les catalogues.
Oui, là-haut.
Il y a deux jours, le professeur Le Goff, qui était à votre place et qui traitait d'un problème encore plus large que le vôtre, puisque c'était l'histoire, disait dans sa conclusion, l'histoire, on ne doit pas la couper en tranches, on ne doit pas faire
où
de...
Vous êtes-vous? Où vous êtes-vous? Hein? Parce que je dois voir, vous voir. Oui.
Oui, il y a deux jours, le professeur Le Goff, qui était à votre place, traitait du problème de l'histoire. Et il disait dans sa conclusion, ce que je souhaiterais, c'est qu'il n'y ait pas d'histoire économique, qu'il n'y ait pas d'histoire politique, qu'il n'y ait pas d'histoire de l'art, il y a l'histoire qui est un tout. Si je comprends ce que vous nous avez dit sur la difficulté de fixer des canons, des règles, sur leur variabilité dans le temps et dans les univers, est-ce qu'on peut penser que vous êtes d'accord avec l'idée du professeur Le Goff que l'histoire est un tout et qu'il n'y a pas de tranche dans l'histoire?
Oui, mais ça ne me suffit pas. Parce que je ne sais exactement qu'est-ce que c'est l'histoire. En ce cas, peut-être, professeur Le Goff est plus heureux de moi. Quand je crois en l'histoire, je crois que c'est vrai. Mais je ne sais qu'est-ce que c'est l'histoire. Il faut définir ça, premièrement.
Alors, si vous pouvez descendre là, s'il vous plaît. Une question et puis ensuite une autre.
Merci.
Oui. Oui, voilà. Vous avez dit au début de votre conférence que vous aimiez l'art et je voulais vous poser la question suivante. Depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup de restaurations qui sont effectuées sur les œuvres d'art de façon très radicale, de façon très massive. Est-ce que vous, en tant qu'historien d'art, vous trouvez ça bien? Vous trouvez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que les œuvres d'art restent des œuvres d'art à partir du moment où elles sont restaurées de façon aussi radicale? Ou est-ce que les œuvres deviennent les œuvres des restaurateurs elles-mêmes? Et quant au statut des images et de l'imaginaire que vous avez juste évoqué à la fin de vos conférences, est-ce que vous pensez que ça a une incidence et que ça change les choses? Est-ce que notre imaginaire est modifié par ces restaurations, comme celle de la Seine de Vinci il n'y a pas longtemps, la chapelle Sixtine de Michel-Ange, les noces de Cana au Louvre, etc., etc. On peut se promener dans les musées, on voit à quel point les œuvres d'art sont restaurées.
Ah oui, très bien. C'est un vieux problème. Quand on a réouvert le Louvre en 1848, tout le monde était heureux. Mais Eugène Delacroix était très triste. Il disait, on a tué les grands tableaux du Louvre parce qu'on les a restaurés. Alors je crois que la condition dans laquelle on voit les tableaux au musée, la condition est une trompe d'œil, une trompe l'œil. Parce qu'on voit les œuvres authentiques qui se présentent dans une condition restaurée et changée. Mais je crois que c'est inévitable, parce que non seulement dans l'art, dans toutes les choses du monde, on voit des conditions altérées. Parce que c'est une illusion que nous pouvons voir l'original pur. L'original authentique, ça n'existe pas, malheureusement. Je serais heureux s'il existerait, mais il n'existe pas. C'est aussi la vindication de l'histoire, la punition de l'histoire, peut-être.
Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas compris comment vous avez réussi à séparer l'art des images. C'est la première question.
Je ne réussis pas.
C'est la félicitation, alors. Vous étiez félicitateur. Vous avez dit aussi que vous adoriez l'art, alors que le verbe adorer, en français, c'est un verbe
religieux.
Religieux.
Ah oui, je sais.
Est-ce une prosternation devant l'esthétique, devant le créé? Pourquoi donc aussi la controverse pour inclure l'art primitif africain au sein de l'art authentique? C'est quoi l'authentique? L'UNESCO à restaurer les vestiges de Pharaon et à réhabiliter son esprit. Celui-ci, il était esclavagiste et il avait utilisé les fils d'Israël comme esclaves pour construire ce que le monde occidental adore actuellement, alors qu'il avait commis plus d'exactions que le Führer du temps de la Deuxième Guerre mondiale contre les Juifs. Si l'histoire est un discours, l'art est un croquis, c'est un schéma, donc il vaut mieux avoir un bon schéma qu'un long discours. Mais à partir du moment où l'on n'apprend rien ni de l'un ni de l'autre, aussi bien l'art que l'histoire ne servent qu'à gonfler l'inflation dans une économie.
Oui, le monde est triste. C'est ça, l'art est magnifique, mais aussi triste, comme toutes les choses dans le monde. Mais si j'ai dit j'adore l'art, alors j'ai pris une citation, parce que ce n'est pas mon invention que l'art, au 19e siècle, apprend la place de la religion. C'est un fait. Ce ne dépend pas de mon opinion. C'est-à-dire, nous avons une religion d'art à la culture bourgeoise qui, aujourd'hui, ne fonctionne plus, peut-être malheureusement.
On va rester là. Merci.